Je dis 20h, c'est mon horaire, non? Vous attendiez pas à ce qu'on me libère si tôt. C'est normal que vous m'ayez remplacé.
Je ne vous ai pas remplacé. Un de mes patients tenait exceptionnellement à me voir avant de partir en voyage. Et je vous croyais à l'hôpital.
De toute façon, ça n'a aucune importance. Je suis venu aujourd'hui pour vous dire que j'arrête la thérapie. Je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Donc, je n'ai plus besoin de vous. Pourquoi vous me regardez comme ça? On dirait un type des services secrets.
Qu'avez-vous à cacher?
Rien. J'ai rien à cacher. Je ne souhaite pas poursuivre la thérapie.
Parlez-moi de votre séjour à l'hôpital.
Vous voulez savoir combien d'étoiles je vais mettre sur Internet? Vous avez dit qu'il y avait un très bon service à Sainte-Anne, c'est ça?
Tout à fait.
Je peux vous poser une question? C'est comment ailleurs? Non, parce que je ne me plains pas, la chambre était propre, bien éclairée, le personnel gentil. Mais les psychologues, les infirmières et la psychiatre qui s'est occupée de moi à mon arrivée, ils m'ont pas semblé très compétents. Peut-être que vous m'avez mal habitué. Vous, quand je vous parle, vous m'écoutez vraiment. Vous rappelez le nom des gens, vous faites le lien entre les différentes histoires. Mais cette psychiatre que vous connaissez, la Vial, bon, déjà, elle est très jeune. Et puis, elle m'a posé 3-4 questions sur mon licenciement, puis c'est tout.
La docteur Vial est très compétente. Elle est chef de service et professeure agrégée en psychiatrie.
Super. Très impressionnant pour son âge. Seulement, elle m'a reçu une fois le jour de mon arrivée. 15 minutes. J'ai jamais revu. Elle m'a demandé si j'avais des antécédents psychiatriques, si j'avais eu des pensées suicidaires pendant mon adolescence. Et... je voyais bien qu'elle ne m'écoutait pas, enfin qu'elle... Elle n'écoutait pas vraiment mes réponses. Elle était juste en train de réfléchir à quel médicament me donner.
Qu'est-ce qui vous a donné ce sentiment de ne pas être entendu?
Disons que j'ai une certaine expérience dans ce domaine. Quand j'allais visiter une société avant de la racheter, à chaque fois que les dirigeants me racontaient à quel point ils tenaient à leur entreprise, parce qu'elle appartenait à leur famille, depuis des générations, blablabla, pendant qu'ils parlaient, moi je faisais déjà des calculs dans ma tête, tout en faisant semblant d'écouter leur baratin.
Et vous? Vous avez baratiné la docteur Vial?
Je sais discerner l'émotion de l'évaluation.
Donc, la psychiatre que vous avez vue, vous pensez qu'elle n'était là que pour faire une évaluation clinique? Elle n'était pas là en train d'évaluer autre chose?
Elle voulait voir si j'allais me suicider? Non, non, mais sérieusement, j'ai vraiment pas compris pourquoi j'ai atterri là-bas. C'est vrai, quoi, ces derniers temps, j'étais très fatigué. J'étais à bout de nerfs. Mais bon, mais ça va, là, je me sens mieux. Mais beaucoup mieux. Parce que ça, pour me reposer, je me suis reposé. Y a rien à foutre dans cet endroit, quel ennui. Ma seule distraction, c'était cette vieille dame. Je sais pas pourquoi elle s'obstinait à venir dans ma chambre. Elle est même venue en pleine nuit. Enfin, je devais lui rappeler quelqu'un parce qu'elle répétait en boucle. Tu le sais, toi, qui c'est, mon papa? Alors, j'en pouvais plus et j'ai fini par lui répondre. Oui, je le sais, mais je te dirai pas. Après, j'ai arrêté de lui répondre parce que je me suis souvenu de cette phrase. Qui est le plus fou? Le fou ou celui qui parle avec le fou? Et j'avais intérêt à bien me tenir si je voulais qu'on me la sortir.
On vous a laissé sortir ou c'est vous qui êtes parti?
Vous savez qu'il n'y a rien de plus facile que de sortir d'un service de psychiatrie?
Ah non, je ne sais pas. Dites-moi.
Eh ben, j'ai dit que je voulais fumer une cigarette dehors. Ils ont dit oui. J'ai ramassé mes affaires et j'ai filé à l'anglaise.
On ne vous avait pas pris votre téléphone, votre montre, à votre arrivée?
Si, si. Mais au bout de 3 jours, j'ai demandé à les récupérer, ils me les ont donnés. Vous voyez, je ne suis pas si dangereux. Vous allez me dénoncer?
Votre hospitalisation n'était pas une mesure punitive.
Je sais, je sais.
Vous êtes venu me voir directement après être parti de l'hôpital?
Comment vous le savez?
Votre poignet.
Oh merde.
Ça s'appelle un acte manqué. Un acte manqué très réussi, même.
Merci.
Vous êtes venu jusqu'ici me montrer ce que vous aviez envie de me cacher.
Docteur, je vous en prie, appelez votre ami, la psychiatre, là, et dites-lui que je n'ai pas besoin d'être hospitalisé.
J'aimerais que nous discutions un peu avant de prendre une décision.
Vous, les psys, vous rendez plus compte, c'est votre quotidien. Mais Sainte-Anne, c'est très fort comme image pour le commun des mortels. Si c'est même passé dans le langage courant, quand un mec déraille, on dit « il sort de Sainte-Anne ».
Oui, on se demande s'il ne devrait pas y retourner.
Il y a quelques semaines, j'étais à la tête d'un des plus gros groupes électroménagers en Europe. Et aujourd'hui, je me retrouve dans un asile entre une vieille femme de 80 ans qui se demande encore qui est son père et un SDF psychotique qui fait des moulinets avec ses bras.
Ben, il me semble qu'entre les deux étapes dont vous parlez, il s'est passé certaines choses.
Ah oui, vous parlez de la semaine dernière. On n'aurait jamais dû venir avec Anouk. C'était grotesque.
Ben, je ne parlais pas spécifiquement de la semaine dernière. Même si vous avez très bien fait de venir.
Je peux prendre vos ciseaux, là?
Vous l'enlèverez chez vous. Venez vous rasseoir.
Ok. Chez vous, ça veut dire que vous allez demander ma sortie?
Alain, est-ce que vous pouvez écouter quand on vous parle? Ça n'est pas systématiquement vous qui décidez. Asseyez-vous.
Vous savez, si vous demandez ma sortie, je vous libère une chambre. Et je pense que d'autres en ont bien plus besoin que moi. Quoi?
C'est intéressant cette façon que vous avez de systématiquement considérer que les autres ont plus besoin d'aide que vous.
Parce que c'est vrai. Au final, j'ai réfléchi, je m'en sors pas si mal. Jusqu'à cette histoire, j'avais réussi dans mon métier. J'ai fondé une famille, j'ai gagné de l'argent.
Est-ce que vous vous souvenez de ce que votre fille a dit la semaine dernière?
Je ne me souviens pas de cette séance, tout est confus.
Vous ne vous souvenez pas non plus avoir pleuré?
Je veux arrêter la thérapie. J'ai pris ma décision, je ne reviendrai pas là-dessus.
Très bien. Avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur un mot que vous avez employé à 2 reprises au début de la séance.
D'accord. Alors, quel mot?
Vous vous êtes étonné que je vous ai remplacé.
J'ai aussi dit que je ne vous en voulais pas. Je vous connais un peu maintenant. Je sais sur quelle piste vous allez encore partir.
Je vous écoute.
Mes parents? Tenez, je vais vous faire un aveu. Tout à l'heure, vous m'avez fait penser à mon père.
Ah.
Vous êtes sorti pour me dire de patienter. L'expression sur votre visage, ça me fait penser à lui.
Oui.
Parce qu'après la mort de mon frère, mon père n'était plus le même. Il était fuyant. Je passais mon temps à chercher son attention. Je le suivais partout comme un petit chien. Et je me rappelle quand il se mettait sur son fauteuil pour fumer une cigarette, je venais m'asseoir sur la coudoir. L'odeur de la clope me filait la nausée. La fumée me piquait les yeux, mais je voulais tellement être à côté de lui. Et lui, il avait ce regard. Comment je vais me débarrasser de toi sans te faire de peine?
Le même regard que j'ai porté sur vous tout à l'heure?
C'est ça. Mais vous étiez en train de travailler, c'est normal. Et mon père aussi avait de bonnes raisons. Il n'avait pas envie d'entendre mes histoires de petit garçon.
Vous avez le droit de lui en vouloir.
Ma mère le voyait pas beaucoup non plus.
Vous avez passé beaucoup de temps seul avec votre mère?
Oui, enfin, elle travaillait aussi.
Quel était son métier?
Secrétaire dans une entreprise de métallurgie. Le soir, j'allais la chercher à la sortie de son travail et on faisait le chemin ensemble jusqu'à la maison. Et comme elle était très fatiguée, ça lui arrivait de monter dans sa chambre sans manger. J'avais peur qu'elle s'endorme en fumant au lit. Et j'allais la voir pour vérifier que le cendrier était froid. C'est curieux, hein. J'étais petit, mais je savais bien que c'était pas de la fatigue, mais de la tristesse. Et ça me faisait très peur.
De quoi aviez-vous peur, exactement?
Qu'elle meure de chagrin. Alors, je passais mon temps à la surveiller.
C'est une très grande responsabilité pour un si petit garçon. Et votre père, il en pensait quoi?
Quand il travaillait pas, il réparait sa voiture. Il passait ses week-ends à ça. Et un jour, j'ai escaladé pour regarder par la petite lucarne qui donnait dans le garage. Et ce jour-là, je l'ai vu sur un tabouret, assis, en train de fixer une photo de Michel, accrochée au mur. Voilà à quoi mon père passait ses week-ends, à regarder une photo de son fils mort, au lieu de s'occuper du vivant. Mes parents étaient détruits par la mort de leur fils.
Et vous?
L'autre jour, vous avez fait le rapprochement entre Myriam, qui était tombée de la fenêtre, et mon frère, qui était tombé de la falaise. Vous vous souvenez de ça? Et depuis, j'ai une image qui me revient souvent. Je me vois au bord d'un précipice, en train de tomber, moi aussi. Toute ma vie, je me suis jeté dans le travail. Passer mon temps finalement à fuir. J'avais tellement peur de mourir moi aussi.